Biden. Voilà, c'est un spring chicken, comme on dit en anglais. Par contre, s'il gagne, vous savez que dans 4 ans, là, il quittera la Maison-Blanche parce qu'il n'aura pas droit à un troisième mandat. Et il a quand même transformé le Parti républicain autour de sa personne. Et le Trumpisme sans Trump, c'est quelque chose qui, à mon avis, aura beaucoup de mal à survivre.
Marie-Cécile, tout à l'heure, Bertrand Badie parlait des institutions qui étaient débordées par la pression politique. Est-ce qu'on en reste juste à l'idée virulence comme ça, on le voit dans les manifestations ou sur les réseaux sociaux, ou est-ce que la démocratie, les amortisseurs démocratiques des États-Unis sont en cause pour vous? Ou est-ce que c'est un fantasme?
Alors, le complotisme d'extrême droite, il existait déjà dans les précédentes mandatures, notamment il a beaucoup grossi sous Obama parce qu'il y a une partie de l'Amérique qui n'a jamais accepté d'avoir un président noir. La différence avec aujourd'hui, c'est que vous avez un président qui souffle sur les braises aujourd'hui, qui les encourage et qui ne condamne jamais vraiment très clairement l'extrême droite. On se souvient de certains de ses propos. Oui, les institutions
sont fragiles. Les institutions sont suffisamment solides pour résister?
On voit que les institutions américaines ont un peu essayé de résister à Trump, notamment le Pentagone, on voit tous les militaires qui se mobilisent contre la réélection de Trump.
Il y a quand même encore un fonctionnement démocratique aux États-Unis.
Le département d'État aussi, la diplomatie a essayé de le contourner. On le voit dans tous les livres qui sortent sur lui. Oui, il y a un fonctionnement démocratique, mais le pays est tellement polarisé entre les démocrates et les républicains que même les républicains qui sont contre Trump n'arrivent pas à se décider à voter pour l'impeachment, par exemple.
Bertrand Badie, en 1960, c'était déjà très tendu et très polarisé. Est-ce qu'on ne s'inquiète pas un petit peu trop, finalement? Ils ont surmonté déjà.
Mais c'est une toute autre tension, justement. C'est-à-dire que c'était programme contre programme. Vision de l'Amérique contre vision de l'Amérique.
Mais il n'y a pas de vision. Là, une vision, l'unité du côté démocrate et la division, effectivement, un peu portée par les républicains. Mais il n'y a pas deux visions.
Justement, non. Parce que, d'abord, si vous examinez la rhétorique des deux candidats, il s'agit d'abord de démolir l'autre. Bon, ce qui n'est pas vraiment un programme de gouvernement. Et d'autre part, je crois qu'il faut insister sur ce point. Je ne sais pas si mes amis seront d'accord là-dessus. Mais le Parti démocrate a montré qu'il était très divisé. C'est-à-dire que ce courant très à gauche est très soutenu par les jeunes des États-Unis, vient en quelque sorte s'opposer à ce qu'est la machine démocrate.
C'est-à-dire le mouvement Alexandria Ocasio-Cortez, etc.
Absolument. Et alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un parti est divisé?
Répondez.
Eh bien, on essaye de faire de la synthèse, du compromis, et la synthèse et le compromis, c'est pas un programme de gouvernement. Et c'est là quand même deux différences majeures par rapport à 1960.
Biden, il a quand même mis beaucoup le curseur à gauche dans son programme depuis la fin de la primaire démocrate. Il a intégré Alexandria Ocasio-Cortez dans son équipe, sur l'environnement, sur le salaire minimum, sur la dette étudiante. Il a beaucoup déplacé le curseur parce qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de séduire les jeunes, les minorités. Tous ces jeunes qui ont défilé dans la rue contre la mort de George Floyd, les Women's March, etc., ce n'est pas des gens qui ont forcément envie de voter Joe Biden, mais il a été obligé de le faire. C'est un programme sans doute le plus à gauche qu'a le Parti démocrate depuis Kennedy.
Oui, Gérald Olivier, est-ce que justement, qu'est-ce que tout ça peut jouer dans l'élection? On a dit parfois que ça pouvait même bénéficier à Donald Trump,
bien sûr,
finalement.
C'est capital. Biden est prisonnier de ce programme. Ce que dit Marie-Cécile est parfaitement exact. Et c'est pourquoi, lors des débats ou lorsqu'on lui pose des questions, il ne dit rien. Parce que s'il prend une position, il sait très bien qu'il va aliéner une moitié du parti. S'il prend une position de gauche, il aliène les centristes. S'il prend une position centriste, il va aliéner l'aile la plus radicale. Donc il est condamné à ne rien dire. Et ça affaiblit considérablement sa campagne. Maintenant, il y a quand même deux visions. Il y a deux Amériques, on l'a évoqué un petit peu. Mais Donald Trump a un message qui est nationaliste et qui est anti-globalisation, qui est anti-mondialisation. C'est exactement l'inverse du côté démocrate. Donc il y a vraiment deux visions du pays qui s'opposent de manière très très profonde.
Pour boucler la boucle, Bertrand Badie, vous disiez que c'est une leçon, c'est une graine, un germe malheureux d'ailleurs, qu'on pourrait retrouver en Europe ou dans d'autres pays, ce qui est en train de se passer.
Oui, parce que on retrouve à travers ce qui se passe aux États-Unis une pathologie beaucoup plus globale qui s'appelle le populisme. Et le populisme, c'est quoi? C'est ce qui reste lorsque l'on ne croit plus aux institutions et lorsque les partis politiques, qui sont en principe les acteurs des élections, ne sont plus crédibles. Et où ce sont les partis qui font du catch-all, comme on dit, c'est-à-dire qui essayent de grappiller des voix parce qu'il n'y a plus d'unité construite. Et donc, les États-Unis d'aujourd'hui, ça peut être aussi beaucoup de démocratie européenne demain, et D'une façon plus générale, cette formidable crise institutionnelle sera extrêmement difficile à combler. On n'a pas parlé de la Cour suprême, mais c'est quand même extraordinaire de voir à quelle vitesse la Cour suprême, suprême juge institutionnel, se politise. Et ça, c'est quand même le signe, je crois, le plus clair d'un dérèglement institutionnel profond.